pour l'heure, il est 4h en temps universel. Vous êtes toujours sur Radio France Internationale, 5h ici à Paris. 30 nouvelles minutes d'information. Arthur Ponchelet, bonjour.
Bonjour Edouard et bonjour à vous qui nous écoutez. Jeudi 20 mars, bienvenue si vous nous rejoignez à la une ce matin. On a perdu toute dignité, on passe notre temps à fuir. Un témoignage dès le début de ce journal, celui d'une famille gazaoui à nouveau déplacée par la guerre. Alors que l'armée israélienne poursuit ses frappes dans l'enclave, elles ont fait au moins 10 morts cette nuit d'après la défense civile palestinienne. Conversation positive et franche avec Donald Trump, dit Volodymyr Zelensky. Pour la première fois depuis leur altercation dans le bureau ovale, les présidents ukrainiens et américains se sont parlé. Ils ont notamment évoqué la prise de contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijjia par les États-Unis. L'Ukraine au menu du Conseil européen spécial aujourd'hui avec cette question: comment réarmer l'Europe? 800 milliards d'euros sont sur la table, mais vous l'entendrez, les Européens ne sont pas tous convaincus. Au sommaire également, on est en Bolivie pour entendre la colère de la rue face aux pénuries de carburant. Et puis en France, où l'on visite une exposition qui met en lumière les artistes noirs et leur importance dans le paysage culturel français. Les bombes israéliennes dans le ciel de Gaza ce matin. Dernier avertissement, dit l'État hébreu aux Palestiniens. Si le Hamas ne libère pas les otages, 10 morts. Rien que cette nuit, dit la défense civile, près de 500 depuis la reprise de la guerre mardi. Et à ces frappes s'ajoutent de nouveaux déplacements de population. Ce sont des scènes devenues quasi quotidiennes depuis le 7 octobre 2023. Des femmes, des hommes, des enfants qui fuient au milieu des décombres, entassant tout ce qu'ils peuvent dans des charrettes. Notre correspondant à Gaza, Rami Al-Merari, a rencontré une famille qui fuit les combats. Les Abou Hamsha ont tout abandonné, sauf leurs instruments de musique. Reportage avec Sami Boukhalifa à Jérusalem.
Je n'ai pas d'adresse. Je suis un simple déplacé. Des paroles touchantes, des notes douces. Dans une autre vie, Ahmed Abou Hamsha était professeur au Conservatoire de musique de Gaza. Un artiste accompli qui joue de plusieurs instruments.
Autrefois, j'avais mon propre studio de musique, mais il est sous les décombres. En creusant, j'ai pu sauver des micros, un clavier et quelques affaires. Durant la trêve, j'ai voulu remonter un nouveau studio, mais je n'ai pas eu le temps.
Car de nouveau, Ahmed Abou Hamsha et sa famille doivent fuir, quitter leur maison de Beit Hanoun, dans le nord-est de la bande de Gaza. Israël vient de désigner cette région zone militaire.
On est venu se mettre à l'abri ici, dans l'ouest de Gaza. J'ai 5 enfants, on est une famille de 7. Tous mes enfants chantent et jouent d'un instrument. Mais dans le contexte actuel, ça ne sert à rien. On a perdu toute dignité, on passe notre temps à fuir. Il faut vite décamper, sans eau, sans nourriture. J'avais des mains de pianiste et aujourd'hui je passe ma vie à creuser, à planter des tentes, transporter des bidons d'eau. Mais je n'abandonnerai jamais.
Free Palestine, Palestine libre, entonne Ahmed et son plus jeune garçon, à qui il promet de rentrer chez eux un jour. Rami El-Merari, Gaza. Sami Bouchla, Jérusalem, RFI.
Gaza, où un bâtiment de l'ONU a été visé par une frappe israélienne hier. Un employé bulgare des Nations Unies est mort. Israël annonce l'ouverture d'une enquête. Le Hamas, lui, accuse l'État hébreu de chercher à terroriser la population. Nous avons tous été pris en otage par un gouvernement sanguinaire. Ça, c'est ce que scandaient des manifestants hier à Jérusalem. Ils étaient plusieurs milliers pour protester contre la politique de Benjamin Netanyahou, dont certains réclament le départ. L'actualité au Proche et au Moyen-Orient. C'est aussi ce missile intercepté par Israël en provenance du Yémen. Pas de blessés, dit l'armée. Hier, de nouvelles frappes américaines ont visé des fiefs des rebelles houthis, notamment dans la région de Sanaa, la capitale. Les houthis seront complètement anéantis, a menacé Donald Trump, le président américain, qui après son coup de fil mardi à Vladimir Poutine s'est entretenu hier avec Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien s'est dit prêt à suspendre les frappes sur les infrastructures énergétiques, prêt aussi à rencontrer des responsables américains en Arabie Saoudite dans les prochains jours. L'Ukraine et les États-Unis ont aussi discuté de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Donald Trump a suggéré que les États-Unis en prennent le contrôle. Emmanuel Chaz, hier soir, Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste sur ces derniers échanges.
Un entretien fructueux, ce sont les mots employés par Volodymyr Zelensky sur son coup de téléphone avec Donald Trump. Le président ukrainien a apporté des précisions sur certaines modalités d'implémentation d'un cessez-le-feu partiel, dont une liste d'infrastructures énergétiques et civiles à protéger qui devrait être présentée aux Américains. Elle comprendrait, en plus des centrales électriques, des infrastructures ferroviaires et portuaires. Tout en disant ne pas vouloir trop entrer dans les détails sur les aspects techniques, Volodymyr Zelensky s'est montré optimiste et dit n'avoir ressenti aucune pression de la part du président américain, allusion aux interrogations qui subsistent sur certaines conditions que Moscou aimerait imposer à l'Ukraine, notamment la cession de territoire, cession à laquelle l'Ukraine ne consentira pas d'un point de vue légal. Volodymyr Zelensky a également annoncé l'arrivée en Ukraine de plusieurs avions de chasse F-16 et signe que les échanges s'effectuent aussi avec les partenaires européens. La conférence de presse a été interrompue par un appel du président français Emmanuel Macron, avec qui les échanges sont devenus quotidiens, selon le président ukrainien. Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky annonce sa visite en France la semaine prochaine. Les chefs d'état-major d'une trentaine de pays prêts à contribuer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine se réunissent au Royaume-Uni aujourd'hui. L'Ukraine et la défense européenne abordée aujourd'hui à Bruxelles, un plan à 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. Et sur la table du Conseil européen spécial, ça démarre ce matin, des investissements massifs annoncés dans l'armement qui sont loin de faire l'unanimité chez les 27. Illustration ce matin en Italie, Anne Lenir, à Rome, les habitants sont loin d'être convaincus.
La majorité des personnes rencontrées à la sortie d'une école au centre de Rome se montrent bien frileuses devant la perspective d'accélérer la production de matériel militaire. Pour le quadragénaire Federico, professeur d'histoire, l'art de la négociation doit être au cœur des priorités.
Le réarmement ne sert à rien. Tel que le plan est présenté, l'argent sortira des poches des citoyens européens et c'est tout. Ce qu'il faut, c'est un long processus de diplomatie.
Clara, dynamique grand-mère, a la même opinion.
Cela fait 3 ans qu'on arme un pays et on n'est arrivé à aucune solution avec ces armes. Moi, je suis europhile, mais on a le droit de ne pas partager certains choix. L'Europe a été fondée sur les valeurs de la paix, donc je suis pour le retour à ces valeurs.
Quant à Fabio, jeune père de 30 ans, il se déclare favorable au plan de réarmement de l'Europe.
Une défense européenne est certainement nécessaire. Je pense que nous nous sommes beaucoup trop fiés aux États-Unis, surtout au niveau militaire.
D'après les derniers sondages, 2 Italiens sur 3 sont opposés au plan de réarmement européen. La plupart d'entre eux sont des sympathisants de la Ligue de Matteo Salvini ou du mouvement 5 étoiles de Giuseppe Conte. Anne Lenir, Rome, RFI.
L'Europe peut-elle devenir un géant de l'industrie de défense? C'est la question qu'on se pose aussi ce matin sur notre site. Article à lire sur RFI.fr. En bref, malgré la rencontre hier entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar, toujours pas de trêve dans l'est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont rappelé leur attachement à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Conformément aux conclusions du sommet SADC-EAC, les combats qui opposent l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et le M23 soutenu par le Rwanda se poursuivent dans le sud Kivu, notamment dans la ville de Walikale. On y revient d'ici une trentaine de minutes dans le journal de Sébastien Duhamel. Vous êtes toujours sur RFI. Il est 4h08 en temps universel. Pénurie de carburant, manque de dollars et inflation galopante en Bolivie. Des milliers de personnes ont laissé éclater leur colère dans la rue hier. Depuis la semaine dernière, les stations-service manquent de carburant dans le pays. Le président a annoncé une série de mesures pour réduire la consommation, notamment la réduction de la flotte des véhicules publics. Mais les Boliviens sont loin d'être convaincus. Reportage à La Paz, Nils Sabin.
La ville de La Paz était en partie bloquée hier par des manifestants, tout comme sa banlieue El Alto, complètement immobilisée par une grève des conducteurs de minibus. Tous souhaitaient mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il trouve une sortie de crise. Elay Awasi, rencontré dans le centre de La Paz.
Le gouvernement a déjà pris des mesures, mais jusqu'à présent, il n'y a eu aucune amélioration. C'est presque une blague. Nous, ce qu'on demande, c'est de vraies solutions.
Parmi les demandes des manifestants, le limogeage de plusieurs ministres, dont celui des hydrocarbures. Pour Elay Awasi, cela aurait dû arriver il y a bien longtemps.
Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais déjà viré ces ministres incompétents. Je ne sais pas ce qu'attend le président.
L'une des organisations à l'origine de la manifestation, les Ponchos Rojos, a encerclé les rues bordant la place Murillo, où se trouve le Parlement et le siège du gouvernement. Luis Mamani Chira.
Nous demandons une solution immédiate. Et si ça n'arrive pas, le peuple bolivien et les 20 provinces de La Paz vont sortir dans la rue. Et le gouvernement en paiera les frais.
Hasta las últimas consecuencias.
La crise que traverse la Bolivie n'est pas vraiment nouvelle. La pénurie de dollars remonte à 2023 et l'inflation était déjà forte l'année dernière. Mais pour le moment, les problèmes continuent de s'accumuler pour le gouvernement. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Manifestation en Bolivie, manifestation aussi à Port-au-Prince, hier la capitale haïtienne, où des milliers de personnes ont dénoncé la terreur des gangs et l'impuissance du gouvernement. La violence des gangs a fait plus de 60 000 déplacés en un mois à Port-au-Prince. L'ONU parle même d'état de siège. En France, le conclave de François Bayrou sur la réforme des retraites prend l'eau. Après deux syndicats, la CGT a claqué la porte des discussions hier, conséquence du refus du Premier ministre de faire bouger les lignes sur l'âge de départ à la retraite. La question centrale pour Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. On reste en France. On vous emmène dans les coulisses d'une exposition qui ouvre ses portes aujourd'hui. Paris Noir retrace la présence et l'influence des artistes noirs en France. De 1950 aux années 2000, ils viennent d'Afrique, des Caraïbes ou d'Amérique du Nord. 150 artistes, dont la plupart sont méconnus du grand public. Eva Barois de Cavel est la commissaire associée de l'exposition.
Pour nous, ce titre, effectivement, qui claque, a du sens. Ce terme noir et cette définition de ce terme noir, que ça ne représente pas un pays, un continent, voilà, c'est ces expériences multiples, celles d'Africains, d'Africains américains, de Caribéens, d'Afro-descendants, ensuite en France. Et dans ce noir, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, peut-être l'existence d'une conscience commune. Cette idée d'une conscience noire partagée, alors qui, effectivement, est un héritage d'expériences communes, notamment cette expérience de la traite, qui est cette dissémination épique de corps noirs globaux. À l'échelle du monde, expérience partagée qui se poursuit dans le monde contemporain, c'est l'expérience du racisme, des assignations, voilà, c'est tout ça qu'on entend dans ce mot noir. Alors on a un nombre incroyable de prêteurs pour cette exposition, elle est dense, hein, encore une fois, vous avez plus de 300 œuvres, et puis, donc ça a été ça, un très très important travail de recherche, hein, d'enquête, je dirais presque, ça sera vraiment une grande exposition de découverte, y compris pour les professionnels de l'art.
La commissaire de l'exposition Paris Noir au micro RFI d'Isabelle Chenu. Il est 5h12 ici à Paris.
Arthur Ponchelet.
Voilà pour le journal. Restez avec nous dans les prochaines minutes. Des caisses qui débordent d'argent, des sponsors par dizaines et des droits télé en hausse. Le Comité international olympique élit aujourd'hui son ou sa nouvelle présidente. On appelle notre correspondant en Suisse pour en parler. Notre invité ce matin, La Chica, la chanteuse franco-vénézuélienne, vient de sortir son dernier album. Et puis, vit-on les ruptures amoureuses comme on vit les deuils? C'est la question qu'on se pose dans le Conseil Santé du jour. Mais d'abord, on part pour l'Allemagne. Le 23 février dernier, les chrétiens démocrates de la CDU ont emporté les élections législatives devant l'extrême droite. Mais à la surprise générale, le parti de Friedrich Merz s'en prend aux ONG. Il les accuse d'avoir appelé à manifester contre lui avant le scrutin. Les organisations protestaient contre l'alliance des conservateurs et de l'extrême droite au Parlement. Reportage à Berlin, Delphine Nerbollier.
Les chrétiens démocrates ont présenté un catalogue de plus de 500 questions au Bundestag pour savoir quelles associations reçoivent des fonds publics. Ils exigent des comptes à 16 organisations aussi connues que Greenpeace, Amnesty International et même les mamies contre l'extrême droite. Marianne Zepp a 72 ans, elle milite depuis un an et demi pour ce mouvement présent dans quasiment tous les défilés pour la démocratie.
Ça a tout d'un acte de vengeance. Je crois que la CDU n'avait pas prévu les conséquences de son vote avec l'AfD au Bundestag, ni le niveau de protestation que cela allait susciter. En remettant en cause notre action, elle essaie d'intimider et de délégitimer les manifestations.
Pour cette grand-mère militante, historienne de profession, ces attaques contre son association sont infondées, et cela pour deux raisons.
Nous sommes une association non partisane et n'appartenons à aucun grand regroupement politique. Deuxièmement, nous ne recevons pas d'argent de l'État.
En Allemagne, ce genre d'attaque contre les ONG et associations est d'habitude plutôt le fait de l'extrême droite. Que la droite conservatrice s'y mette est nouveau, et cela a suscité de très vives réactions. Julia Rauschenberg est politologue à l'Université libre de Berlin. Elle y voit un parallèle avec ce qui se passe dans de nombreux autres pays.
Nous constatons au sein de la CDU et surtout de la CSU bavaroise un phénomène que nous pouvons observer dans d'autres pays, chez les conservateurs britanniques, chez les républicains aux États-Unis, chez l'EVP autrichien. C'est un conservatisme radicalisé. Cela consiste en une politique conservatrice qui se concentre très fort sur des sujets liés à la lutte culturelle et qui croit profiter d'attaques contre le wokisme de gauche, contre des minorités de gauche, qui tyranniserait la majorité. Nous rejouons ce qui se passe depuis quelques années aux États-Unis. Ce que nous voyons en Allemagne est une énorme augmentation de la polarisation affective, le rejet des militants des autres camps.
Cette affaire pourrait toutefois ne pas avoir de suite concrète. Les sociaux-démocrates du SPD sont les seuls partenaires de coalition possibles de la droite allemande et ils s'insurgent contre l'attitude de Friedrich Merz et de son parti. Ils ont posé comme précondition à tout début de négociation, un arrêt des accusations envers la société civile. Friedrich Merz, le très probable futur chancelier, a d'ailleurs déjà adouci le ton. À voir si cela durera. Delphine Nerbollier, Berlin, RFI.
Reportage à retrouver en intégralité dans Accent d'Europe, en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Ils sont 7, 4 Européens, un Japonais, un prince jordanien, une Zimbabwéenne et tous rêvent d'une chose, diriger le Comité international olympique. Le CIO doit élire aujourd'hui son nouveau président après 12 ans de règne de Thomas Bach qui laisse derrière lui une organisation à la santé financière insolente. Bonjour Jérémy Lanche.
Bonjour.
Correspondant de RFI en Suisse. C'est en Suisse qu'est basé le CIO. Les caisses sont donc pleines à craquer, Jérémy, même si cet argent ne dort pas longtemps sur son compte en banque.
Oui, le CIO est une association à but non lucratif. 90% de ce qu'il récolte est redistribué au comité d'organisation des Jeux et au mouvement olympique dans son ensemble. Et on parle d'une jolie somme, près de 7 milliards de dollars sur la période 2021-2024 jusqu'au JO de Paris. Donc, ça veut dire que le CIO verse plus de 4 millions de dollars chaque jour aux organisations sportives et aux athlètes à travers le monde. Une bonne partie revient aux pays hôtes pour les aider à faire face aux coûts d'organisation. Le reste part dans les caisses des 206 comités nationaux olympiques et des fédérations internationales. Celles de l'athlétisme, par exemple, du ski, du judo, de la natation. On ne va pas toutes les citer, Le CIO finance aussi l'Agence mondiale antidopage. Bref, il est à la base de toute l'architecture du sport mondial. Près de 1000 personnes travaillent au siège du CIO à Lausanne. Ils étaient à peu près une centaine il y a 20 ans.
Et les prochains JO d'été de Los Angeles n'ont même pas eu lieu que le CIO sait déjà qu'il va récolter plus de 13 milliards de dollars d'ici à 2032. Jérémy, d'où vient tout cet argent ?
Alors, il y a les sponsors déjà. Si vous voulez être un partenaire officiel des JO, ça a un coût. 150 millions de dollars minimum pour une Olympiade. Il y a aujourd'hui 12 multinationales sous contrat avec le CIO. On peut citer Coca-Cola, Airbnb, Samsung ou le groupe Allianz. Le sponsoring, c'est un tiers des revenus à peu près. Mais le gros morceau, ce sont les droits télé. Ils représentent 60% des recettes et ça, c'est grâce aux chaînes américaines. NBC, le diffuseur historique des JO, vient de prolonger son contrat jusqu'en 2036. Elle aura ainsi déboursé plus de 10 milliards de dollars en 15 ans à peu près pour s'octroyer le droit de diffuser les Jeux de Tokyo, de Paris et ceux à venir de Los Angeles et de Brisbane. Alors, des finances saines dans un corps sain, oui et non, il y a un petit bémol quand même. Trois gros partenaires japonais ont annoncé après les JO de Paris qu'ils arrêtaient, sans vraiment dire pourquoi, mais on imagine que l'explosion des coûts de sponsoring a dû jouer. Le CIO, qui sent le vent tourner, regarde désormais beaucoup du côté du Golfe pour compenser la perte d'éventuels sponsors. Il a par exemple attribué à l'Arabie Saoudite le droit d'organiser les JO de l'e-sport pendant 12 ans, moyennant finance bien sûr. Riyad, qui pourrait aussi se laisser tenter, dit-on, par l'organisation des JO d'été, pourquoi pas dès 2036.
Et d'ici là, on va suivre cette élection du ou de la présidente du CIO toute la journée sur notre antenne. Merci Jérémy Lanche, correspondant de RFI en Suisse. « 4h20 en temps universel. On l'a découverte il y a 6 ans avec des sons électro et des musiques très dansantes. La Chica est actuellement en tournée en France pour présenter son dernier album. La Chica et El Duende Orchestra. Pour ce disque, enregistré avec un petit orchestre de chambre, la chanteuse franco-vénézuélienne a travaillé avec le pianiste et compositeur El Duende. La Chica est notre invitée ce matin. Elle répond aux questions d'Edmond Sadaka.
Bonjour La Chica.
Bonjour.
Alors après avoir fait beaucoup d'électro sur votre premier disque, cette fois vous faites la part belle aux instruments acoustiques, piano, contrebasse et surtout aux instruments à vent.
Oui, complètement. Il y a entre autres une clarinette basse. Je suis amoureuse de cette texture. Effectivement, j'ai un premier album qui est électro, un deuxième qui est complètement piano, voix beaucoup plus intimiste, très épuré, qui va à l'essence de la musique. Et réarranger avec un orchestre, c'est très excitant parce que c'est une énergie que j'avais jamais connue avant. Le fait d'être porté par des vibrations d'instruments organiques, je savais pas ce que ça faisait comme effet. C'est vraiment tout nouveau pour moi.
Los astros, no.
Vous avez vécu La Chica aussi bien au Venezuela qu'en France. Vous êtes installé dans le quartier parisien de Belleville. Ce sont deux sources d'inspiration différentes, j'imagine, pour vous.
Oui, clairement, il y a eu deux influences très fortes. D'une part, la manière de vivre la musique en Amérique latine, au Venezuela. Une manière peut-être plus dansante, plus directe, dans la mesure où il y a de la musique partout. Dans les autobus, les gens chantent tout le temps et dansent partout. Et en même temps, à Belleville, il y avait une sorte de bouillonnement artistique. Je me souviens avoir vu énormément d'expositions faites avec ce que les artistes avaient sur place. Et c'est une chose qui m'a beaucoup marquée. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait. Et c'est une chose qui a influencé directement ma manière de faire de la musique. Même si j'ai pas tout ce qu'il faut avec moi sur le moment, ça n'empêche pas de composer, ça n'empêche pas d'enregistrer.
Solamente acepto el caos que lidera mi vida. Te caigo del cielo, ni siquiera sabes qué hacer conmigo. Esa brosura de mente que sientes como cosquilla. Tragas todo lo que no sé.
Toutes les chansons de cet album ont pour point commun la langue espagnole. C'est beaucoup plus naturel pour vous d'écrire et de chanter dans cette langue.
Oui, c'est la langue des émotions, c'est la langue qui est liée à ma mère. Et c'est vrai que je crois que naturellement, quand je me mets à écrire des choses sur un carnet, des choses qui me viennent, eh ben, ça sort naturellement en espagnol et j'ai pas eu envie de casser cet élan intuitif. L'espagnol, c'est une langue qui a beaucoup de mots qui finissent en A, en O. Et naturellement, ça permet de projeter la voix plus facilement. J'ai besoin que ça sonne. C'est vrai que je parle très bien français et au moment où j'arriverai à écrire des choses en français qui tiennent la route, dont je suis satisfaite, je pense que je chanterai en français. Donc j'ai lâché l'affaire pour l'instant, mais je suis absolument pas fermée au fait de chanter en français.
La Chica, merci.
Merci à RFI.
Chica y el Duende Orchestra, c'est le titre du dernier album de La Chica.
Le conseil santé avec Suno Assurance.
Notre conseil santé du jour ce matin, cette question, les ruptures amoureuses sont-elles comparables à un deuil ? Laurence Garcia a posé la question au docteur Christian Zagzik.
Bonjour, docteur Christian Zagzik.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et psychothérapeute à Paris, auteur du livre Cœur brisé, relations amoureuses tourmentées aux éditions d'Ile Jacob. Première question, on dit souvent qu'une rupture amoureuse, c'est comparable à un état de deuil. Ça se vérifie d'un point de vue psychique ou c'est un cliché?
Non, c'est pas vraiment un cliché. En fait, c'est pas très éloigné. La grande différence, c'est qu'entre la rupture amoureuse et le deuil, c'est que dans le deuil, l'objet est perdu définitivement. La personne aimée est perdue définitivement, donc on ne pourra plus la rencontrer dans le réel. Alors que dans le chagrin d'amour, on peut toujours rencontrer à nouveau l'objet amoureux, même quelques jours, quelques années, voire parfois, j'ai vu, 30 ans plus tard.
Quand est-ce que, parce qu'on sait souvent qu'on passe parfois par des états plutôt dépressifs, mais à quel moment il faut vraiment consulter ou être accompagné pour éviter une vraie dépression?
Eh bien, quand ça dure, quand on commence à perdre l'élan vital, quand on commence à vouloir s'isoler, à ne plus voir les gens, et que ça prend une tournure effectivement dépressive, mais qui dure et qui n'est pas transitoire. Parce qu'effectivement, après une rupture amoureuse, c'est normal d'être triste.
Triste, colère, culpabilité, angoisse.
Un mélange entre la tristesse et la colère, ça peut switcher d'une émotion à l'autre. Il y a toujours la coexistence des deux émotions.
Des émotions qui nous renvoient peut-être aussi à notre propre histoire personnelle, en fait.
Qui renvoient à l'enfance, parce qu'on peut voir chez un enfant, la colère peut alterner avec la tristesse, les pleurs.
Merci pour ces quelques conseils, Dr Christian Zakzik. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Cœur brisé et relations amoureuses tourmentées, avec plein de conseils très pratiques. On en reparlera aux éditions Odile Jacob. Le conseil santé, c'est bien sûr à réécouter sur notre appli Pure Radio. Et ce matin, dans Priorité Santé à 9h10 TU, tout autre sujet, on parlera de la santé bucco-dentaire.
À tout à l'heure, Laurence Garcia. Et bientôt 5h30, ici à Paris, un coup d'œil à notre direct sur YouTube. Vous nous saluez de Colvézi, merci de vous réveiller avec nous. Et pour patienter, avant le retour de l'actualité africaine, de la musique, on écoute Syracuse de Voyou.
J'aimerais t'en voir, Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone, le palais du grand lama, rêver des amants de Vérone, au sommet du Fujiyama, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran,
Syracuse de Voyou ce matin sur RFI, album de reprise des chansons d'Henri Salvador. Il est bientôt 4h30 en temps universel. C'est ainsi que s'achève cette demi-heure d'actualité. Aux manettes ce matin, Michael Vernet, Raphaël Rennes. Merci à eux, merci à vous surtout de votre fidélité. Restez bien à l'écoute de RFI. Dans une poignée de secondes, le retour de l'actualité africaine.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Tours géantes autonomes, éco-quartiers, bidonvilles solidaires. Comment, dans le contexte du changement climatique et de la raréfaction des ressources, pouvons-nous habiter la planète de manière durable? Nos invités urbanistes et architectes montrent la voie.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI.
carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Les canons de beauté évoluent avec les réseaux sociaux. Au Maroc, cela touche les femmes et les hommes également. Plus traditionnel, le henné, symbole de joie, arme de séduction. En Mauritanie, il déploie ses motifs géométriques sur les mains et sur les chevilles des femmes.
Carrefour du Maghreb avec Juliette Rangeval, tous les samedis à 11h10 TU sur RFI.